VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde. Aujourd'hui, édition du jeudi 5 mars 2020. En direct de Washington, Idrissa Seloudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
En Côte d'Ivoire, la révision de la Constitution sera proposée au vote de l'Assemblée nationale et du Sénat, réunis en congrès à Yamoussoukro le 17 mars.
En Guinée, les autorités ont interdit les manifestations contre le président Alpha Condé, prévues ce jeudi par l'opposition qui a appelé à maintenir les protestations.
Au Mali, visite du Premier ministre Boubou Cissé dans la ville symbole de Kidal, dans le nord du pays.
Les États-Unis lèvent les sanctions qui frappaient 157 entreprises soudanaises, annonce la Banque centrale du Soudan.
Le Sénégal a annoncé mercredi 2 nouveaux cas de coronavirus, ce qui porte à 4 le nombre de personnes contaminées dans ce pays.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
En Côte d'Ivoire, la révision de la Constitution annoncée fin 2019 par le président Alassane Ouattara sera proposée au vote de l'Assemblée nationale et du Sénat réunis en congrès à Yamoussoukro le 17 mars. Le point avec Bagassi Koura.
Le président ivoirien n'a pas encore dévoilé les modifications qu'il compte présenter vendredi lors d'un conseil des ministres extraordinaire. Il pourrait toutefois les annoncer aujourd'hui pendant son discours annuel sur l'état de la nation devant le Congrès. Le calendrier prévoit aussi une modification de la loi électorale qui devrait être présentée le 28 mars devant l'Assemblée nationale. Une fois présenté au conseil, le texte sera soumis au vote le 17 mars par les deux chambres réunies. Le Congrès ivoirien doit valider toute modification de la Constitution à une majorité des 2/3 et à défaut tenir un référendum. La coalition de M. Ouattara dispose d'une majorité écrasante dans les deux chambres. Alassane Ouattara, âgé de 78 ans, a été élu en 2010 puis réélu en 2015. Il laisse planer le doute sur une possible candidature à un troisième mandat. L'opposition critique toute révision. Le PDCI de l'ancien président Harry Conan Bédié parle de tripatouillage et l'ancien premier ministre Guillaume Soro, actuellement en exil, l'a jugé inacceptable.
En Guinée, les autorités ont décidé hier d'interdire des manifestations contre le président Alpha Condé, manifestations prévues ce jeudi par l'opposition qui a appelé à maintenir les protestations. La situation reste tendue quelques jours après le report par M. Condé d'un référendum constitutionnel controversé et d'élections législatives qui devaient se tenir le 1er mars. Au nom de tous ses homologues, le maire d'une commune de Conakry, Seydou Ba Sako, a informé de cette interdiction le FNDC, un collectif de partis et d'organisations de la société civile opposé au projet prêté au président Condé, élu en 2010 et réélu en 2015, de briguer un troisième mandat à la fin de l'année.
Au Mali, le Premier ministre Boubou Cissé est arrivé hier à Kidal, où il est allé à la rencontre des populations. Monsieur Cissé et sa délégation ont commencé leur visite dans la région par Tessalit, avant d'arriver en début de soirée dans la ville symbole de Kidal. Correspondance de Kassim Traoré.
En se rendant dans la région de Kidal, Boubou Cissé dit venir écouter les populations afin de trouver des solutions à leurs préoccupations.
Et c'est ça qui nous amène ici aujourd'hui dans la région de Kidal. Cette visite dans la région de Kidal, ici à Tessalit, s'inscrit aussi dans notre ferme volonté et engagement de faire en sorte que l'accord pour la paix et la réconciliation puisse être non seulement mis en œuvre, ça puisse être le cas de façon diligente et pour le bonheur des populations.
Après l'étape de Tessalit, le Premier ministre et sa délégation sont arrivés à Kidal. Visite sur la notabilité et installation au niveau du gouvernorat de la ville. La jeunesse donne son avis par rapport à la situation de Kidal.
Les services sociaux de base, c'est un problème crucial ici à Kidal. On a un problème d'électricité, de l'eau et surtout de l'éducation.
Bénéficier de tout ce qu'un Malien a comme droit.
Le même droit qu'a les Maliens de Kidal, c'est le même droit qu'un Malien de Kidal doit avoir.
Cette deuxième journée de la visite du Premier ministre Boubou Cissé va s'articuler autour de la rencontre avec l'armée reconstituée au camp 1, la rencontre avec les chefs de mouvement signataires de l'accord d'Alger et les forces vives de la ville de Kidal. Kidal, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a déclaré hier que toute la lumière devait être faite sur un massacre commis dans la partie anglophone du Cameroun afin de comprendre qui a fait quoi. Ce massacre a suscité des tensions entre Paris et Yaoundé après que le président français Emmanuel Macron a dénoncé ce qu'il a appelé des violences intolérables au Cameroun. C'était après la mort de 23 personnes, dont une majorité d'enfants, au cours d'une opération militaire le 14 février dans le village de Ntumbo. Le président Macron et son homologue Paul Biya se sont depuis entendus dimanche sur la nécessité d'une enquête impartiale.
Le département d'État américain offre une récompense allant jusqu'à 7 millions de dollars, soit près de 4 milliards de francs CFA, pour des informations pouvant conduire à l'arrestation d'Aboubacar Shekau, chef de Boko Haram. Des détails avec notre correspondant à Abuja, Gilbert Tamba.
Ce n'est pas la première fois que les États-Unis offrent des récompenses pour l'arrestation du chef du groupe Boko Haram. En 2013, l'administration de l'ex-président Barack Obama avait promis la même récompense. La tête de Shekau est à nouveau mise à prix, mais il est difficile de dire où se trouve l'homme le plus recherché du Nigeria, encore moins savoir s'il est encore vivant. Il a déjà été annoncé mort à plusieurs reprises, mais est souvent réparu dans des vidéos comme pour narguer les pouvoirs en place. Aboubacar Shekau a pris la tête du groupe peu après le meurtre de Mohamed Diouf, fondateur de Boko Haram, tué par l'armée nigériane en septembre 2009 à Maïdougouri, en même temps que plusieurs de ses fidèles. Le mois dernier, Shekau a menacé le président Muhammadu Buhari de ne plus venir dans l'état de Borno suite au massacre de voyageurs dans la ville d'Ano. Depuis le début de l'insurrection djihadiste, des dizaines de milliers de personnes ont été tuées et au moins 2 millions de personnes ont fui leur domicile. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
La Banque centrale du Soudan a annoncé hier que les États-Unis ont informé Khartoum de la levée des sanctions qui frappaient 157 entreprises soudanaises. Le point avec John Linden.
Le gouverneur de la Banque centrale, Badreddine Abdelrahim, dit avoir reçu une notification de la décision américaine via le ministère soudanais des Affaires étrangères. La levée de ces sanctions signifie que les entreprises soudanaises concernées peuvent désormais avoir des relations normales à l'international. Il s'agit d'établissements bancaires qui ne seront plus soumis aux restrictions sur les transferts et les opérations avec l'étranger. Les relations entre Washington et Khartoum se sont détériorées peu à après l'arrivée au pouvoir de M. Omar el-Béchir lors d'un coup d'État soutenu par les islamistes en 1989. Le fondateur d'Al-Qaïda, Oussama Ben Laden, a vécu à Khartoum entre 1992 et 1996. Depuis, les États-Unis ont multiplié les sanctions économiques contre le Soudan, inscrit sur la liste noire des États soutenant le terrorisme depuis 1993. Washington a finalement levé ses sanctions en octobre 2017, tout en maintenant le Soudan sur la liste noire. Khartoum a annoncé début février que les États-Unis ont invité le chef du Conseil souverain, le général Abdel Fattah al-Burhan, à se rendre en visite officielle à Washington.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le Sénégal a annoncé mercredi deux nouveaux cas de coronavirus sur une Française et une Anglaise arrivées fin février, ce qui porte à 4 le nombre de personnes contaminées dans le pays. L'un des nouveaux cas concerne une femme de 68 ans, épouse d'un patient de 80 ans, testé positif mardi, a indiqué le ministère de la Santé dans un communiqué. Résidente en France, elle est arrivée au Sénégal le 29 février avec son mari. Le second est celui d'une Anglaise de 33 ans, venue de Londres et arrivée à Dakar le 24 février. Deux premiers cas de coronavirus avaient été annoncés lundi et mardi sur deux Français. Mercredi soir, le continent africain comptait un cas confirmé mais au Nigeria, 2 en Égypte, 3 en Algérie et à présent 4 au Sénégal, mais aucun décès.
Ailleurs dans le monde, 4 autres pays, le Chili, la Hongrie, la Pologne et la Slovénie, ont confirmé hier leur premier cas de coronavirus pendant que l'Italie ferme toutes ses écoles pendant 10 jours. Les cas hongrois concernent 2 étudiants iraniens, tandis que celui de la Slovénie est un patient qui a voyagé au Maroc et en Italie. Ce dernier pays a le plus grand nombre de cas de coronavirus en Europe, soit 2700 et 100 morts. Selon le chef de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, un total de 75 pays ont signalé des cas.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Michel Joseph.
Les compagnies aériennes africaines pourraient perdre jusqu'à 40 millions de dollars de revenus du fait de l'épidémie de coronavirus, a expliqué Raphaël Kououchi, représentant de l'Association internationale du transport aérien, lors d'une conférence sur l'aviation à Addis Abeba. C'est en partie la conséquence de l'arrêt des vols lucratifs vers les destinations chinoises. Ethiopian Airlines, une des principales compagnies du continent, fait état d'une baisse de 20% d'achat des billets. Elle avait été critiquée d'avoir maintenu ses vols vers la Chine, contrairement à ses rivales des pays de la région comme le Rwanda, le Kenya et la Tanzanie. Malgré les risques que pose l'épidémie de coronavirus, l'Organisation mondiale de la santé exhorte les compagnies aériennes à poursuivre la desserte de leur destination habituelle. Pour leur part, les pays membres du Fonds monétaire international promettent d'apporter tout le soutien nécessaire pour limiter l'impact du coronavirus, en particulier pour les pays les plus vulnérables. La Banque mondiale a annoncé mardi un plan d'urgence de 12 milliards de dollars pour aider les pays à prendre des mesures efficaces en vue de contenir l'épidémie. Enfin, la justice portugaise va probablement geler le fruit de la vente par la femme d'affaires angolaise Isabel dos Santos de ses 42,5% d'actions de la compagnie Eurobic. Selon une enquête du consortium international de journalistes, la fille de l'ancien président Eduardo dos Santos a utilisé les fonds publics de son pays pour cet investissement et d'autres, ce qu'Isabel dos Santos, elle, dément.
Les sports à présent avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Patrice Baumel est le nouveau sélectionneur de la Côte d'Ivoire.
Oui, l'ancien adjoint d'Hervé Renard a été porté à la tête des éléphants en remplacement d'Ibrahim Camara, remercié fin février. Il a pour objectif de qualifier la Côte d'Ivoire pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Les éléphants jouent deux matchs cruciaux contre Madagascar pour les éliminatoires de la CAN Cameroun 2021. Et le choix du technicien français s'explique par l'urgence. Lui qui connaît la maison, selon le premier vice-président de la Fédération ivoirienne de football.
Nous avons des échéances très importantes. Le 27 mars à Abidjan, ici, nous avons rencontré Madagascar, qui est leader de notre poule avec 6 points. 4 jours après, le 31 mars à Madagascar, nous allons jouer contre Madagascar. Si nous faisions le choix d'un entraîneur qui arrive, qui ne connaît pas l'Afrique, qui ne connaît pas nos réalités, qui ne connaît pas le groupe, nous pensons honnêtement qu'il aurait du mal à s'adapter. Ce ne sont pas les entraîneurs de renom qui ont manqué, ceux qui nous ont approchés. Mais nous avons fait le choix de la prudence et le choix de la continuité, de choisir quelqu'un qui soit capable de mener ce groupe où nous le souhaitons.
Souri Diabaté, premier vice-président de la Fédération ivoirienne de football.
L'ancien président de la Fédération ghanéenne de football, inculpé pour escroquerie.
Oui, Pessi Nyantaki a été mis en cause par une enquête journalistique dans un documentaire d'investigation sorti en juin 2018. Une équipe sous l'égide du célèbre journaliste Anas Aremayai Anas a piégé en caméra cachée des dizaines d'arbitres ghanéens et du continent et plusieurs dirigeants de la Fédération ghanéenne de football, dont son président, en leur promettant des pots de vin. Kwesi Nyantaki s'est vu invité dans un pays du Moyen-Orient pour négocier avec un riche investisseur qui lui propose de sponsoriser le football ghanéen. Après lui avoir offert 65 000 dollars, le contrat s'élèvera à 15 millions de dollars, lui promet le faux homme d'affaires, lui réservant une part personnelle de 4,5 millions de dollars.
Wanyama s'engage avec l'Impact Montréal.
Oui, l'international kényan quitte les Spurs et rejoint la franchise canadienne en MLS ici aux États-Unis pour 3 ans. En manque de temps de jeu avec Tottenham en Première Ligue cette saison, seulement 122 minutes disputées, Victor Wanyama était sur le départ après un transfert avorté vers la Belgique. L'Impact Montréal a publié ce recrutement sur son compte Twitter, mais précise que ce transfert sera confirmé par le club après la réception du certificat de transfert international du joueur et de son examen médical. Victor Wanyama va travailler sous les ordres du nouveau coach Thierry Henry. Basketball, pour finir avec vous Idrissa, les résultats de la nuit dernière en NBA.
Milwaukee a battu Indiana 119 à 100, Boston et Cleveland 112 à 106, Oklahoma City s'est défait de Détroit 114 à 107, Miami et Orlando 116 à 113, Utah et New York 112 à 104, Minnesota et Chicago 115 à 108, Dallas et la Nouvelle-Orléans 127 à 123, Portland et Washington 125 à 105.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sidoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Ebola en République démocratique du Congo. La dernière patiente enregistrée est sortie hier du centre de traitement d'Ebola à Beni. La signification de ce développement, Eddie Sango a posé la question au coordonnateur de la lutte contre Ebola, le docteur Jean-Jacques Muyembe.
Le dernier malade est sorti donc du CCE au 3 mars et il a été testé négatif le 2 mars. Ça veut dire que maintenant, nous devons faire le compte à rebours qui commence donc le 2 mars. Nous devons continuer la surveillance et attendre jusqu'aux 42 jours. Si vous faites le calcul, les 42 jours, donc ce sera le 12 avril. C'est seulement le 12 avril. Si nous n'avons pas d'autres incidents, le 12 avril, nous allons déclarer, bon, le ministre de la Santé de la RDC, l'OMS, vont donc déclarer la fin de cette épidémie d'Ebola.
Les 42 jours sont comptés à partir de la sortie d'hôpital et ce n'est pas à partir du dernier cas enregistré, c'est-à-dire les malades qui se présentent à l'hôpital.
Donc à partir du jour où les malades n'est plus contagieux, ne peut plus contaminer. C'est ce jour-là. Nous comptons à partir de ce jour-là. Donc, à partir du dernier test qui montre que les malades n'est plus contagieux.
Quelles sont les assurances que l'on peut avoir dans la mesure où on est dans un coin où il y a insécurité, où le déplacement des gens est difficile parfois et on peut avoir des malades dans des coins reculés, dans des villages?
Non, disons que l'assurance que nous avons, c'est d'abord les contacts. Parce que nous devons suivre les contacts. Il y avait plus de 500 contacts et maintenant, nous restons avec moins de 30 contacts à suivre. Ce qui veut dire que si ces contacts ont tous accompli les 21 jours de suivi, et là, nous sommes plus ou moins sûrs qu'il n'y aura plus d'autres cas. Bon, comme vous dites là, les surprises sont toujours là. Nous sommes vraiment préparés. S'il y a des surprises, bon, écoutez, on continue la lutte. Mais pour le moment, il y a donc ce dernier malade qui est sorti. Et puis, nous avons encore donc 42 jours à suivre. Donc, si au bout de ces 42 jours, nous n'avons plus de cas ou de contacts à suivre, nous pouvons déclarer donc la fin de l'épidémie.
Que va-t-il se passer maintenant? Est-ce que les centres de traitement resteront en place ou on va en réduire le nombre? Qu'est-ce qui va se passer?
Non, les centres de traitement restent en place. Les équipes aussi restent en place. Bien sûr, nous allons procéder à la réduction du nombre d'effectifs.
Et nous apprenons que certains expatriés ont commencé à partir déjà.
Je pense qu'il ne faut pas alourdir, n'est-ce pas, les équipes. Si la charge de travail diminue, ça ne sert à rien de garder un nombre important, n'est-ce pas, de participants, donc des travailleurs. Nous sommes en train donc de diminuer progressivement.
Les Congo, la RDC n'est pas encore touchée par le coronavirus, mais est-ce que les mêmes structures resteront pour prévenir?
Les mesures de prévention sont les mêmes. Donc nous pouvons dire que la RDC est mieux préparée. Notre point faible, c'est les structures de soins, mais sur la surveillance et la confirmation du diagnostic au laboratoire, là vraiment nous sommes prêts.
Le docteur Jean-Jacques Muyembe, coordonnateur de la lutte contre Ebola.
Abdourahman Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, le nouveau coronavirus continue sa progression dans le monde avec plus de 90 000 cas. Le gouvernement met en place des mesures d'urgence pour endiguer le Covid-19 et tente de rassurer les populations. En Afrique, 6 pays sont touchés. Pendant ce temps, l'épidémie suscite des inquiétudes quant à son impact économique et financier. Où en est-on dans la recherche du vaccin contre le Covid-19? Les mesures de prévention mises en place sont-elles efficaces? Les gouvernements africains sont-ils suffisamment préparés pour faire face à une possible multiplication des cas sur le continent? Nous allons discuter de tout cela avec nos invités ce jeudi à 19h, temps universel. Vous pouvez réagir sur notre page Facebook.
Au Mali, la coordination des mouvements, associations et sympathisants de l'imam Diko, vu radical, lancé en septembre, appelle à manifester vendredi à Bamako. Mais ses partisans se sont opposés à son audition devant la justice après des propos violents tenus samedi lors d'un meeting. Modibo Dambélé a recueilli la réaction d'Abdoul Niang, journaliste à Bamako.
L'imam Mahmoud Diko est un activiste religieux puisqu'il n'agit plus conformément aux préceptes de l'islam. Il a même créé un mouvement politique pour conquérir et exercer le pouvoir. Le monde entier a été surpris de l'entendre tenir certains propos où il appelle les musulmans à la violence, à l'insurrection armée contre les autorités, donc contre la corruption, contre les mensonges et contre la mauvaise gouvernance. Or, ce sont là des propos condamnés par le code pénal malien. Ces agissements de sa part est également condamné par le Coran, chapitre 4, verset 93.
Suite à son intervention, nous avons vu que l'État malien, notamment le procureur du tribunal de la commune 5, l'a convoqué. Mais arrivé sur les lieux, nous aurions appris qu'il a été empêché par ses partisans de répondre à l'invitation du procureur. Qu'est-ce que vous pensez de cette réaction ou bien de ses partisans?
C'est d'abord le signe qu'il est lâché par Dieu grâce à l'intervention des badauds qui sont sortis le soutenir, qui a obligé la justice à reculer.
Comment expliquez-vous cela?
Il y avait un problème de coordination. Il y a eu des dysfonctionnements très graves parce que convoquer une personnalité d'une telle envergure et ne pas prendre des précautions sécuritaires, donc ça c'est étonnant quand même parce que la force publique n'était pas sur les lieux. Et là, c'est très dangereux pour la vie même du personnel du tribunal. On ne sait pas pourquoi le ministre de la Sécurité n'a pas défiché la force publique pour que la justice puisse agir. Donc, après, on a vu qu'il y a beaucoup de contradictions au niveau du gouvernement. Depuis combien de temps l'affaire des avions cloués au sol fait la une des journaux. Là, les enseignants sont en grève depuis plus d'un mois. Il n'a jamais dit un mot et c'est aujourd'hui qu'il sort pour évoquer ces problèmes. C'est là où il faut voir le populisme. Et l'islam radical et l'islam politique fonctionnent conformément à ces principes.
Quelle suite l'État risquerait de donner à cette affaire?
Bon, je ne crois pas que nous avons un État capable d'aller jusqu'au bout de cette affaire. C'est la preuve de la justice sélective au Mali. Un leader religieux est déjà en prison pour les mêmes propos. Lui, il a été enfermé il n'y a même pas un mois d'abord. Et si un autre cas plus grave se produit, et voilà. Donc, moi, je ne crois pas quand même que nous avons un État responsable qui est capable de s'assumer. Parce qu'entre l'État et cet imam, il y a beaucoup de secrets. Je ne crois pas quand même qu'on puisse donner une suite sérieuse à ça.
Quels pourront être les risques associés à de pareilles attitudes?
C'est l'anarchie qui s'installe et c'est dommage. Une atteinte grave est portée ainsi à la laïcité.
C'était Abdoul Niang, chroniqueur de Radio Dambé à Bamako.
Restez branchés 24h sur 24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
Le barrage de la Renaissance sur le Nil Bleu en Éthiopie sera le plus grand barrage hydroélectrique d'Afrique. Sa construction, qui devrait durer jusqu'en 2022, suscite des tensions avec les pays situés en aval, notamment le Soudan et l'Égypte, qui craignent une diminution des débits d'eau et des apports de limon. Sur quoi porte le contentieux entre Addis Abeba et Le Caire, Idriss Fall a joint René Lefort, spécialiste de la Corne de l'Afrique.
Les eaux de Nil fournissent 90% de l'eau potable de l'Égypte. Les trois quarts à peu près des eaux du Nil qui coulent en Égypte viennent d'Éthiopie. Donc les Éthiopiens ont dit, nous on voudrait une part du gâteau. Et donc ils ont décidé de construire un immense barrage qui sera le plus grand d'Afrique à des fins exclusivement hydroélectriques. C'est-à-dire un barrage qui ne retiendrait pas d'eau pour l'irrigation et qui ne priverait pas l'Égypte de son débit habituel du Nil. Les Éthiopiens, ils ont commencé à construire ce barrage sans rien demander à personne. Les Égyptiens ont fini par s'affoler. Des négociations ont eu lieu pour savoir comment est-ce qu'on pouvait un peu arranger cette affaire, c'est-à-dire permettre aux Éthiopiens d'avoir leur électricité et aux Égyptiens d'avoir de l'eau potable. Et puis les négociations étaient dans l'impasse jusqu'à ce que les Égyptiens disent « Eh bien écoutez, nous on va faire intervenir une tierce partie. »
L'Éthiopie n'est pas tellement enthousiasmée par une médiation américaine.
Ben non, l'Éthiopie n'était pas enthousiasmée du tout parce qu'elle était un peu en position de force. Les Égyptiens ne pouvaient pas faire grand-chose sur quelque chose qui se passait en aval du Nil. Mais ils l'ont finalement accepté, on ne sait pas très bien pourquoi, que les États-Unis et la Banque mondiale, d'observateurs, se sont autoproclamés médiateurs. En fait, acteur direct de l'accord, puisque les États-Unis ont pondu un accord que l'Égypte a signé, mais que l'Éthiopie refuse maintenant de signer.
Et pourquoi ?
Pourquoi l'accord que l'Égypte a signé, l'Éthiopie refuse de le signer au motif qu'elle doit encore l'étudier, consulter, etc., etc. Et ce qui est intéressant, c'est que le Soudan, qui jusque-là soutenait l'Égypte dans cette affaire de barrage, à l'heure actuelle, n'a toujours pas accepté de signer. Donc on est vraiment face à un blocage et avec Abiy qui est enfermé dans une nasse. Parce que où il cède, et à ce moment-là, il perd tout sur le plan intérieur, hein, où
ils ne cèdent pas. Et à ce moment-là, ils s'aliènent les Américains et la Banque mondiale au moment où l'économie éthiopienne a un besoin absolument fou de devises étrangères.
Et on va aller vers où, alors?
Sisi a réuni le conseil militaire et l'a fait savoir que le message était clair. Il y a déjà eu, au sein de la direction égyptienne, des discussions pour éventuellement mener une opération militaire contre le barrage. Mais je doute qu'on aille quand même jusque-là. Je pense que les négociations vont reprendre. D'ailleurs, la position américaine est très contradictoire. Pompeo dit une chose, Trump en dit une autre. Je pense qu'il y a encore une petite marge pour de la négociation.
L'ancien journaliste René Lefort, spécialiste de la Corne de l'Afrique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
VOA Afrique célèbre cette semaine son 60e anniversaire. C'est en effet le 7 mars 1960 que le service French to Africa, la Voix de l'Amérique, a diffusé son premier programme en direction du continent africain. Nous vous proposons d'écouter un témoignage, celui du Maxi Voum Voum, le grand Georges Collinet de Bonjour l'Afrique, l'un des animateurs radio les plus connus en Afrique pendant une trentaine d'années à partir de 1965. Arzuma Compaoré a tendu à Georges le micro de VOA Afrique, un micro qu'il connaît bien.
Ow, hey, t'es debout là, parce que c'est maintenant ou jamais.
J'ai passé 50 ans de ma vie à la radio, à faire de la radio, et j'ai commencé bien sûr à La Voix de l'Amérique. Et La Voix de l'Amérique, je suis arrivé en 1962, je crois. L'Amérique était en plein essor. C'était l'époque extraordinaire de l'Amérique. C'était aussi le moment où l'Afrique devenait indépendante, ce qui était fabuleux. À l'époque, il y avait un truc qui s'appelait Power DJs. Et ce que je faisais, c'est de pouvoir... Je parlais aux gens comme s'ils étaient à côté de moi, si tu veux.
T'as pas intérêt à rester au lit quand t'écoutes ce truc-là, parce que ça veut dire que tu es soit malade, soit tu es fatigué, ou bien tu es déprimé, hein. Alors, hein, c'est pas le cas. Allez.
J'avais inventé toutes sortes de choses. L'homme du Maxi Voum Voum est en alerte. Il avance toujours dans la vie, quoi qu'il en soit. Et je me marrais comme un fou, comme un bossu. Et c'est ce qui a fait le bonheur de beaucoup d'Africains, qui se réveillaient le matin, qui écoutaient tout ça. Et nous, ça nous permettait, évidemment, de pouvoir donner l'information qui était nécessaire pour leur présenter un peu le point de vue américain.
Elle a la voix là qui fait « c'est qui joue pour plus ?» Enfin, un truc comme ça, là, assez génial. Hein, ouais.
Le moment le plus glorieux, c'est lorsque je suis arrivé la première fois en Afrique. J'étais le premier, d'ailleurs, de la Voix de l'Amérique. Lorsque je suis arrivé à Bamako, il y avait 5000 personnes qui m'attendaient à l'aéroport. C'était quelque chose d'extraordinaire. Tous mes vœux les meilleurs. Et c'est une grande dame qui n'a que 60 ans, qui est toujours très jolie, et à qui je souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonheur et de réussite.
Ok, allez, je vous laisse en compagnie de bons gars. Je vous donne rendez-vous demain matin à 5h30, temps universel, pour un autre maxi-taxi de la vie. Oh, hey.
Le grand Georges Collinet, ancien animateur radio de VOA Afrique.
Salut les amis, Roger Moutou ici sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h, temps universel, dans l'émission RM Show. Au menu, de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA Afrique. Suivez-nous en direct sur Facebook Live, VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Greg Burns. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seydou Dia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.